France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je suis Marie-Nicole Lemieux, je suis née au Québec, exactement à Dolbeau, et je suis ce qu'on dirait une artiste lyrique, et puis plus simplement, je suis une chanteuse d'opéra.
Marie-Nicole Lemieux, nous nous quittions hier sur votre émotion le soir de votre consécration parisienne. C'était au Théâtre des Champs-Élysées, dans l'Orlando Furioso de Vivaldi. Après une grande appréhension, finalement, ça a été un triomphe. Est-ce que, par la suite, ça a été plus facile?
À chaque fois que je revenais sur scène, je me disais, ça y est, c'est là que je vais mourir. Azucena à Salzbourg en 2014, ça a été tellement dur. Parce que ça n'avait jamais été fait non plus. Le Trouvert, en 2014, à Salzbourg, avec des Trebko, avec Gatti. C'est pour ça que je suis allée, c'est pour Daniel Gatti. J'ai rencontré dans ma carrière des chefs fantastiques qui m'ont tellement permis d'être moi-même, qui m'ont aimé pour ce que j'ai à donner et qui voulaient ça. Ils ne voulaient pas une chanteuse qui rentre dans le costume. Ils voulaient Marie-Nicole, tu sais. C'est ça qui est le fun. J'ai été chanceuse. Il y a eu Alan Curtis, il y a eu Jean-Christophe Spinozzi, John Nelson, Daniel Gatti. Mais ça, là, c'est des chefs qui m'ont amené à des endroits absolument fantastiques. Daniel m'a amené à faire le Requiem de Verdi au Musikverein. Ça, c'était en 2010. L'après-midi, avant de chanter, j'étais dans ma salle de bain qui était magnifique en passant. Ils nous avaient logés dans un hôtel fantastique. J'avais une robinetterie de laiton. Et je pleurais comme ça, là. Je pleurais toutes les larmes de mon corps en me disant, ils vont me détester. Qu'est-ce que je fais là? Et je pleure. Puis à un moment donné, tu sais, je finis toujours par pleurer, puis j'arrive au bout de mes larmes. Puis là, je me dis, ben, coudonc, je mourrai. Ils me détesteront, puis ça va être ça. Puis ces soirs-là, ça a été triomphal, tu sais. Mais donc, à Salzbourg, c'était pareil. Mais là, Azucena revient 3 fois. Et à chaque fois que je revenais, je me disais, ça y est, c'est là que je vais mourir. Je suis pas morte. J'ai passé au travers. Et quand je suis arrivée à la fin pour saluer, mais là, je savais que j'avais encore d'autres spectacles à venir. Ça, c'est ma déception. J'en ai pas profité de ça, de ce succès-là. J'en ai pas profité parce que je pensais trop à ce qui s'en venait. Mais c'est pas grave parce que c'était ma manière à moi de survivre à ça. Ça a été vraiment exigeant. J'aurais aimé ça plus en profiter parce que c'est vrai que j'étais bonne, mais je m'en rendais pas compte. C'est fou, hein? Contrairement à la dernière émotion que j'ai eue dernièrement, bon, il y a eu évidemment Carmen.
Carmen qui était magnifique, c'était la version de concert, oui. Théâtre des Champs-Élysées,
en mise en espace, oui, encore, c'est ça, là, si vous imaginez.
Avec Michael Spires.
Ah, cher Michael, ça a vraiment été un coup de foudre artistique, vraiment, 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 et comme personne aussi, mais par rapport à Carmen, c'est vrai que l'appétit est venu, je vais vous le dire, en le faisant. J'ai toujours eu une part de moi qui était terrorisée par Carmen, parce que justement, on l'avait tellement fait. Et c'est tellement aussi associé à une Carmen, il faut que ça soit dans les standards de beauté. Parce que je ne vais pas dire, je vais pas quand même dire que je suis laide, là, je suis une belle femme pulpeuse. Mais je veux dire, c'est pas dans les standards, disons, d'aujourd'hui. On la voit toujours ténébreuse aussi, beaucoup ténébreuse. Toujours les cheveux noirs, et puis très ténébreuse. Et en fait, ce qu'elle raconte, c'est pas ténébreuse ce qu'elle raconte, c'est un être lumineux. Mais évidemment, le défi, c'était d'être au TCA, au Théâtre des Champs-Élysées. Je peux dire au Théâtre des Champs-Élysées, c'est mon public. Je peux le dire, je vais le dire, c'est mon public. Puis j'avais tellement peur de décevoir, puis j'étais terrorisée. Jusqu'à ce que Michael entre dans la salle de répétition. Il est rentré, et là, c'est bête, mais tu sais, il est grand, bâti. Puis là, on a joué, puis là, il m'a pris dans ses bras, puis là, je me suis sentie femme. Et c'était tellement important. Et là, et je l'entendais chanter en plus, il était bon. Et là, tu sais, ça m'a donné des ailes. Le chef aussi, la mise en espace aussi qui était super. Et la chef, Simone Young, ça a été aussi Elle m'a donné des ailes parce qu'elle était, elle m'a compris, mais on s'est compris, mais comme ça, on se regardait même pas. On se comprenait. Mais là, on y croyait à cet amour-là entre nous deux, je dirais. Quand on était sur scène, c'est vrai que c'était électrique. Et c'est pour ça qu'on y croit. Parce que c'est électrique. Et à la fin, quand on était devant le monde, de face, et qu'on racontait les gens, pour mon mari qui est venu avec, je le traîne chez Carmen, puis des fois, il s'endort. Et là, il me dit, mais j'avais jamais compris à quel point c'était féministe comme propos. Et en fait, Carmen, elle revendique aussi le droit à sa vie, le droit d'être libre, puis il dit, j'avais même pas réalisé ça. Il dit, je comprends. Il dit, c'est génial, Carmen. Alléluia. Avant de l'avoir fait, je ne me rendais pas compte à quel point j'ai aimé le faire. C'est ça l'affaire, c'est que je... Autant Dalila...
Dans Samson et Dalila.
Dans Samson et Dalila, ça, je l'ai attendu très longtemps. Et je l'ai fait une fois à Montréal en 2015. Et ça, je veux le refaire. Et ça, mais ça, ça faisait longtemps que je rêvais de le faire. Mais Carmen, c'est comme j'avais... C'est ça, j'avais peur. J'ai toujours... C'est ça, mais c'était jamais agréable de se faire... De lire des trucs, des commentaires, par exemple, sur son physique dans les critiques. C'est jamais agréable. Mais donc, voilà, c'est drôle, hein? C'est après avoir fait ça sur scène que je me suis dit, je vais avoir des demandes. Tout le monde me disait, attendez, mais on va vous le demander partout. Rien. Il y a une personne qui me l'a offert, mais j'étais pas libre. Mais rien. Et c'est là que j'avais pas de frustration avant. C'est fou, hein? Mais c'est de l'avoir fait, d'avoir goûté à cette musique-là, dans mon corps, d'avoir aimé ça. Et là, probablement que je le referai plus. Je pense que je le referai plus. De toute façon, en même temps, si je le refaisais, il faudrait que ce soit avec quelqu'un d'aussi bien que Michael. Ça, c'est dur. Bon, pour moi, c'est comme genre... Je disais, tu sais, vraiment, faut qu'il y ait une chimie aussi forte que ce que j'avais avec lui. À moins qu'on le fasse sur scène, tous les deux, une autre fois. Ça pourrait être bien. Mais le coup a été plus difficile après qu'avant. Avant, j'avais tellement peur, je savais pas que j'étais capable de rendre hommage à ce rôle-là. Donc, je suis triste maintenant d'en parler de Carmen. C'est fou, hein? Mais ça fait partie de la vie. Là, je suis en travail, justement, sur moi-même pour accepter ça. Parce que c'est sûr, après ça, je vois plein de Carmen qui chantent sur scène et que je me dis, mais attends, ils n'ont pas la maturité que j'ai, ils n'ont pas la voix, mais ils ont le physique. Mmh. Elles ont un physique, disons. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans cette zone où je vais aller en perte de poids drastique? Et en même temps, c'est vraiment un combat intérieur. Parce que je n'ai jamais aussi bien chanté. Je me tiens en forme, je nage, je cours. Et en même temps, j'ai une carrière assez belle. Et justement, ce public parisien, ce public français qui m'aime tant, il m'aime pour ce que je suis. Donc, tu sais, c'est très... comprenez ce que je veux dire? C'est des questions qui sont... à des, comme ça, des débuts d'année ou des fins d'année qui viennent vous chercher. Là, tu dis, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et il faut accepter les conséquences.
Marie-Nicole Lemieux, ce Carmen,
oui.
Ça va aussi donner, si je puis dire, oui. Cassandre dans l'œuvre de Berlioz,
oui.
Où vous êtes également avec Michael Spires.
Oui.
Et là encore, des
et
prises
Joyce
de rôle.
Et Joyce DiDonato. Ça, j'étais terrorisée aussi. Terrorisée.
Oh, mais non, finalement, Marie-Nicole, vous êtes à chaque fois terrorisée, si je puis dire, quand ce sont des prises de rôle, des choses importantes.
Oui, je vous parle de, c'est ça, des prises de rôle importantes. C'est... Mais Cassandre, non, Cassandre, c'est là, non, je dirais ma plus grande fierté, c'est Cassandre. Cassandre et aussi avoir passé aussi un événement qui est arrivé aussi dans la tournée de Rossini, le dernier concert au Théâtre des Champs-Élysées, où est arrivée une chose banale, comme tout. J'ai une note qui a craqué, qui n'est pas sortie. Mais j'étais dans un état de fatigue extrême parce que j'avais fait beaucoup d'entrevues, j'avais chanté beaucoup de concerts. Et parce que j'étais devant le public, que j'aime tellement le public du Théâtre des Champs-Élysées, je voulais tellement être parfaite que ça m'a déstabilisée, là. Et j'ai craqué sur scène, j'ai craqué. Je n'étais pas capable de chanter. J'avais et le seul moyen que j'ai trouvé de m'en sortir, c'était de parler au public et de leur expliquer comment je me sentais en larmes. Mais j'ai appris aussi que j'étais plus qu'une note manquée, que c'était tout ça aussi, Marie-Nicole. Puis c'était aussi pour ça que ce qui m'aimait aussi, parce que je donne extrême, je suis dans le don tout le temps, puis que.
Ce qui était fascinant aussi, Marie-Nicole Lemieux, c'est qu'on se demandait qu'est-ce qui s'est passé pendant l'entracte pour que cette deuxième partie aussi, vous soyez là, que vous reveniez, et que ce soit magnifique et que le public soit en délire à la fin.
Parce que j'ai parlé aux gens avant l'heure de Tancred. Je leur ai dit vraiment c'est exactement ce qui se passait. Et finalement, cette heure-là, il était super beau. il était vraiment beau. La voix était d'une clarté. C'est ça qui était fou. C'est-à-dire que je suis tombée, je me suis relevée, puis on s'est aimé. Et ça, c'est quand même beau.
France Musique, les grands entretiens de Marie-Nicole Lemieux.
Une grosse année. Hein.
Beaucoup de prises de rôle.
Oui.
De risques.
Et des triomphes. Bon, je vais le dire, j'aime pas ça dire ça, mais je le dis. Cassandre, vraiment, je suis fière. Je suis fière de moi. Faut se le farcir. C'est vraiment, mais en même temps, mon cher Berlioz d'amour, je pense que je suis faite pour chanter Berlioz. Je suis faite pour ça. Et Cassandre, l'écriture, en fait, est pour moi. Mais ça m'a pris 17 ans, 20 ans de travail vocal pour arriver à ça. Mais je le fais. Et je sais que je peux le faire et je le fais bien. Donc ça, je pense que c'est plus plausible que je le refasse sur scène. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et c'est un côté aussi cariatide, de déesse grecque, déesse troyenne. Donc mon physique imposant, ça peut passer. Non, mais je suis en train d'être là-dedans, tout ça. Et puis, s'il y en a des assez fous pour me dire, ben moi, je veux tout ça, Carmen, mais on verra. Mais d'apportez-moi beaucoup d'eau, je vais. Non.
Si on parle des opéras mises en scène, il y a un rôle, Marie-Nicole Lemieux, qu'on n'a pas encore évoqué, qui est très important,
oui.
Qui est celui de Miss Quickly.
Ah, oui.
Et je crois qu'il y a avant et après Falstaff en 2003 à Francfort.
Oui.
En termes d'incarnation, de se dire l'opéra, oui, je suis chez moi.
Exactement.
D'accord.
C'est vrai, vous avez raison. C'est vraiment en 2003, après avoir fait Falstaff à Francfort dans une reprise, Bernd Löbe, je venais de faire un récital. Et à l'époque, il était directeur de la Monnaie. Et je me rappelle, il était dans les escaliers, il me dit « Je monte Falstaff en 2003 dans mon nouveau théâtre à Francfort, veux-tu venir faire Quickly ?»« Ok, j'appelle ma prof, j'ai dit « Est-ce que c'est pour moi ?»»« Oui, 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 ok. » Et vraiment, c'est là que j'ai appris à avoir l'équilibre sur scène. Donc, à aimer jouer, chanter et faire la mise en scène. Donc, cette espèce d'équilibre entre le jeu et la musique. Mais évidemment, ça, on le doit au génie de Verdi. C'est du théâtre musical. Et vraiment, je savais que j'allais faire ce rôle-là souvent, mais qu'il me porte à ce point-là dans les plus grands théâtres du monde. Là, je peux dire que bientôt, je vais avoir fait mon grand chelem des grands théâtres du monde.
Mais, manque quoi, Marie-Nicole Lemieux?
Il manque le Met. Voilà. Mais bientôt, on verra. J'ai fait quoi, plus de 70 fois? C'est vraiment un rôle pour moi, en fait. Vocalement, bon, la texture, c'est ça. Puis en plus, c'est la comédie. J'ai fait la paix avec ça. Au début de ma carrière, j'avais excessivement peur des rôles de comédie. Parce que je le savais que j'étais douée pour ça. Mais j'avais peur. Déjà que je suis rigolote dans la vie, mais vous savez, j'ai un âme très torturée, comme vous voyez, je pleure souvent. Donc, je voulais être certaine qu'on ne me prenne pas pour un bouffon. Et ça, c'était très important pour moi. Et donc, j'ai eu beaucoup peur de la comédie sur scène étant jeune. Mais Falstaff, ça m'a réconciliée, ça m'a permis de voir aussi que c'est pas tout le monde qui sait faire rire, hein. C'est pas tout le monde. Et ça, j'ai ce don-là, donc tant mieux, tant mieux. Et puis après, donc, dans les comédies aussi, j'ai pu faire aussi, ça c'était un bonheur de faire l'Italienne à Alger. À Nancy, en plus, une mise en scène rigolote, justement, c'était chouette. Je crois que c'est ça qu'on apprend avec l'expérience, c'est la profondeur du rire. Et que finalement, être triste, ça peut être très léger. La profondeur et le bien-être qu'on peut ressentir quand on fait rire des gens et qu'on leur fait oublier leurs soucis. Parce que c'est à ça qu'on sert aussi.
Vous dites souvent, Marie-Nicole Lemieux, que dès très petite, de toute façon, vous avez ce côté l'âme torturée, comme vous le dites, ce petit côté un peu comme dans Annie Hall, le personnage de Woody Allen, enfant, qui est toujours dans cette sensation du doute.
Oui, toujours. Qui pense à la fin du monde. J'avais 10 ans, puis je faisais des angoisses sur la fin du monde.
Mais du coup... quand on est contralto, qu'on a 20 ans, la Rhapsodie pour alto de Brahms, les Mahlers, tout ça, c'est pas mal, tragique.
Exactement, c'est pour ça. J'avais pas envie de faire du Rossini, je trouvais ça mes mièvres. Emmenez-moi pas, voyons, du Mozart. C'est terrible, hein? Alors, c'était génial parce que je pouvais exprimer mon côté
noir
et puis chanter Baudelaire, hein? Allez, on s'arrache les tripes, on s'ouvre le ventre, on se met les tripes sur la table, puis on pleure! Schumann, avec Brahms, avec Wagner et Schubert, les toujours les plus tristes. Ah oui, ça fait du bien, parce que ça exprime cette noirceur-là. Et puis après ça, on va mieux. Quand je chante du Mahler, par exemple, puis même quand j'en écoute, Mahler est ce qui me réconcilie, c'est ce qui me réconforte le plus. Maintenant, je fais plus de crises sur le néant, de crises d'angoisse, parce qu'il y a Mahler, et la 8e de Mahler, entre autres. Quand je l'écoute, je vais mieux. Haydn aussi me fait énormément de bien. Voilà. Les salles de concert, les salles de théâtre, l'art, ce sont nos églises d'aujourd'hui et de demain. Et c'est ce qui devrait être. Parce que c'est les seuls endroits où on peut se réunir en tant qu'être humain, avoir une émotion qui est dénuée de toute religion, qui est dénuée de couleur, de race, mais qui touche directement à l'âme humaine. Donc au théâtre, on rit, on pleure. À l'opéra, il y a la musique aussi. Au concert, t'entends une partita de Bach, ça vient te chercher. Que tu sois chinois, que tu sois noir, blanc, jaune, on s'en fout. Ça vient tous nous chercher. Et ça, on devrait encourager encore plus la culture parce que pour moi, j'y crois, ce sont nos endroits de spiritualité de demain. C'est ce vers quoi on devrait tendre. Thank you.
Jephté que vous chantez en ce moment, Marie-Nicole Lemieux, Jephté, oratorio de Handel, une histoire poignante, tragique. Oui, là aussi, il peut y avoir difficile. Un côté assez cathartique.
Oui, c'est très cathartique et c'est très difficile, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de résonance aussi avec aujourd'hui, même si la mise en scène n'est pas du tout est hors temps. Voilà, ça vient chercher toute cette, justement, cette misogynie historique. En fait, ça rejoint aussi l'histoire aussi d'Iphigénie qui se fait sacrifier par son père Agamemnon. Ça rejoue aussi, c'est un peu cette histoire-là, cette espèce de... Oh, Seigneur! C'est... non, c'est même... C'est... Donc, Jephtha qui est le fils illégitime d'un chef, d'un juge hébreu, promet à Dieu, si je suis victorieux, je vais t'offrir en sacrifice la première personne qui m'accueillera après ma victoire. Et qui vous pensez qu'il l'accueille? Sa fille bien-aimée, Iphis. Et donc, Storgé, la mère, pendant tout l'opéra, même, elle chante, elle a un don de voyance. Elle a des rêves. Elle voit venir ces ombres noires-là. En fait, j'ai un peu encore un rôle de Cassandre. Les gens ne m'écoutent pas, mais je vois des choses. Mais j'avais raison. Et donc, la fille dans la mise en scène, Iphis, elle est complètement vraiment le typique, la fille à papa, là. Tu sais, c'est-à-dire, c'est son papa, c'est le meilleur. Son papa, maman, et ah, oh, maman est râleuse, maman. Mais en même temps, c'est terrible parce que Jephtha décide d'y aller et de sacrifier sa fille. Mm. Et vous savez ce qui est le plus triste là-dedans? Et c'est ça que j'aime dans la mise en scène de Klaus Guth, parce qu'on le sent et j'ai le droit de l'exprimer, ça. Parce que contrairement à l'histoire dans la Bible d'Abraham, qui veut sacrifier Isaac, l'ange arrive et lui dit « Non, ne fais pas ça. Je vais te donner une descendance aussi longue que les étoiles et tout ça. » Isaac, on le laisse tranquille. Il fait sa vie, il va se marier, il va avoir des enfants. Et qu'est-ce qui arrive avec ma fille, Iphis? Oh, l'ange lui dit « Non, non, ne la tue pas, ne la tue pas, ne la tue pas. À quoi tu penses, voyons donc. Il veut pas ça, c'est le Dieu. » Mais finalement, elle finit à son service. Il faut qu'elle reste vierge toute sa vie et qu'elle devienne au service du temple. Et moi, ça me frustre. Parce que, pourquoi on ne l'allait pas laisser tranquille comme l'autre? Pourquoi? Parce que c'est une femme, évidemment. Et donc, c'est bien parce que dans les mises en scène, je ne crie saute pas de joie en disant « Wouhou! Fantastique! » Et ça, c'est bien. Mais ça vient chercher quand même. Ça vient me chercher, ça, ces affaires-là.
Marie-Nicole, vous diriez que vous êtes vous, parce qu'à un moment, vous avez dit qu'une de vos quêtes, ce serait de réussir à être dans la vie aussi naturelle que sur la scène, ce qui peut paraître paradoxal. Souvent, on peut imaginer qu'on est plus naturel dans la vie que sur un plateau.
Vous avez bien raison. C'est drôle parce que la semaine passée, j'ai comme mis le doigt sur le sens de mes paroles. Parce que je me disais, pourquoi je suis si bien sur scène? Pourquoi? Et en fait, je pense que ça rapproche beaucoup. J'ai trouvé une clé dans les textes bouddhistes. En fait, c'est parce que sur scène, je suis en pleine conscience. Parce que sur scène, je suis là. Et je ressens la bienveillance, souvent pour le public. J'ai beaucoup d'amour. Mais c'est vrai, c'est-à-dire, je veux les envelopper. Je veux être bienveillant, je veux être mieux, je veux donner. Et c'est-à-dire qu'il y a un état de conscience, puis il y a un état aussi quand tu chantes, on est en éveil sur scène. C'est pas toujours, là. Quand on a peur, des fois, c'est pas là, l'éveil. On souffre, puis... Mais ça arrive, des petits moments, des micro-moments sur scène. Et c'est ça qui fait que on sent que tout peut être possible. Et je pense que c'est ça que j'essaie d'être... j'aimerais ça être sur... dans ma vie, en état de pleine conscience, en étant là. Quand je suis là, que je sois là et pas ailleurs.
C'est sur l'heure exquise de Reynaldo Hahn par Marie-Nicole Lemieux et Daniel Blumenthal que se terminent ces grands entretiens avec Marie-Nicole Lemieux. Réalisation de cette série, Perrine Mingui, prise de son Yvan Turc, mixage Éric Boisset, attaché de production Marion Guimet, préparation Aude de Jambline et Martin Coulon. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.